EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour, bonjour tout le monde. Heureuse de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, on parle de grossesse et d'accouchement. Et oui, on peut avoir pas mal de questions en ce qui me concerne. Ça remonte à longtemps. Donc, écoutez, je me rappelle pas de tout. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une doula qui va pouvoir nous partager ses conseils, ses recommandations pour vivre au mieux sa grossesse et puis aussi son accouchement, sachant que encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler et on veut avoir aujourd'hui un avis d'experte pour pouvoir vivre au mieux cette belle saison comme on l'a vu lundi avec Jeanne qui nous a raconté sa grossesse. Et je suis avec Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour Annabelle.
Prête?
Oui.
À connaître les douleurs de l'enfantement.
Prête à entendre une doula parler.
Et toi Stéphanie, toi aussi, hein, ça fait un petit moment.
Hein, ah oui, mais moi je me rappelle encore.
Ah, tu t'en rappelles?
Moi, j'aurais bien pris une doula à cette époque-là.
Une doula?
Oui, Philippe, mon plus vieux, j'ai pris 32 heures pour accoucher.
Ouh. Wow.
Je suis entrée à l'hôpital le 29 décembre. J'ai accouché le 31 décembre.
Ton mari t'avait proposé d'attendre le premier, non?
Oui, exact. Il m'avait dit, c'est pour sauver de l'impôt. Tu m'avais sauvé de l'impôt si t'as... Mais oui, j'avais dit, sortez l'enfant, peu importe l'orifice, vous me sortez cet enfant-là. Et 32 heures. Wow. Mais c'était le plus beau jour de ma vie quand je l'ai tenu dans mes mains.
Oh, magnifique. C'est très beau. Et
oui,
voilà.
J'aurais pris une doula pour améliorer ce jour de bonheur. Mais,
écoute, on a aujourd'hui Sophie, puis on va pouvoir lui demander peut-être ce que tu aurais pu faire de différent à l'époque. Oui. Parce que ça a évolué depuis les dernières années. Ouais, ça a évolué maintenant. Donc, ça se passe mieux, entre guillemets. Donc, Sophie, bienvenue parmi nous. Salut, Sophie.
Merci, bonjour.
Donc, Sophie, on est contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis, on le disait, tu es donc une doula. Tu vas pouvoir nous expliquer c'est quoi exactement une doula, puis surtout la différence entre la doula et la sage-femme. Et puis, ensemble, écoute, on a pas mal de questions, nous, à te poser un petit peu pour savoir comment vivre au mieux et puis cette saison. Et puis peut-être déraciner certains préjugés qu'on peut aussi avoir, certaines fausses croyances qu'on peut avoir autour de la grossesse ou de l'accouchement. Alors donc tu es doula. Qu'est-ce qu'une doula et c'est quoi la différence avec une sage-femme?
Oui voilà, donc je suis une doula. Alors la grosse différence entre la doula et la sage-femme, c'est que la doula ne pose pas d'actes médicaux. Donc elle est vraiment un soutien émotionnel, aussi matériel, logistique, spirituel pour les couples chrétiens, mais elle ne pose pas de diagnostic, elle ne prescrit pas de médicaments, elle ne donne pas d'avis médicaux, etc., ce que la sage-femme fait. Et donc, il y a vraiment un travail collaboratif entre la sage-femme et la doula.
Et est-ce qu'on peut accoucher juste avec une doula?
Alors non, tout accouchement est toujours suivi par un professionnel de la santé, une sage-femme, un gynécologue ou une gynécologue. Et donc, la doula vient vraiment en soutien avec l'équipe médicale.
Ok, d'accord. Donc, la doula va peut aller accompagner une femme qui accouche à l'hôpital, à la clinique. Ce n'est pas réservé aux accouchements à la maison.
La doula peut vraiment être partout, donc que ce soit en maison de naissance, que ce soit à l'hôpital, à la maison, et la doula est là, peut être là du début de la grossesse, à l'accouchement, et puis toute cette période aussi du quatrième trimestre, le postpartum.
Ok, ah, ça va jusque après, il y a un service après accouchement.
Oui. Et c'est souvent à ce moment-là le rôle important de la doula qui vient justement en soutien émotionnel et logistique justement à la maison où la maman parfois se retrouve un petit peu seule.
Ouais, en effet. Toi, t'avais déjà entendu parler des doulas, Aurélie ?
Oui, je me suis retrouvée dans un cours avec une doula.
Et de quoi ?
Ouais, quand je faisais mes cours d'entreprise.
Ah oui, ok.
Oui, et elle parlait justement, et c'est bien qu'elle ait parlé du côté spirituel, parce que c'est ça qui m'avait interpellée le plus. C'est que cette dame-là, justement, elle était doula. C'était une entreprise de doula qu'elle était en train de mettre en place. Elle a développé le côté spirituel et elle parlait des énergies, des choses comme ça, etc. Et moi, ça m'avait interpellée et ça m'interpelle aujourd'hui aussi pour dire aux gens que ce côté spirituel n'est pas à négliger dans le choix de la personne qui va accompagner pendant la grossesse. Il n'est vraiment pas à négliger. Si la doula n'est pas chrétienne, ben c'est des choses auxquelles il faut tenir compte parce que dans l'exercice de leur fonction, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour elles.
Non, non, c'est vraiment important de le souligner parce que c'est sûr que du coup, on peut vouloir se rendre service et puis finalement, on va prendre une personne avec beaucoup de croyances spirituelles, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. Si vous êtes une famille chrétienne et que vous souhaitez avoir recours à une doula, y a des doulas chrétiennes qui existent, comme Sophie qui est en Belgique.
Voilà,
mais bon, tu n'es pas la seule doula chrétienne. En tout cas, je l'espère. Sinon, bon courage. La doula chrétienne francophone. Et pour revenir à notre sujet de la grossesse, Sophie, on peut peut-être commencer avec cette question-là. Alors, on voit, tu sais, les belles photos, etc. Ceci dit, moi, perso, tu vois, j'étais gonflée comme pas possible. Franchement, c'était terrible.
Ça me fait plaisir, moi aussi.
C'était pas la période. Moi, je vois des photos, j'aime me dire, ah, t'étais magnifique. Ok, si c'est ça ta version de moi, magnifique, ça me fait peur. Et franchement, écoute, j'étais un vrai bibendum. J'appuyais, ça faisait des cratères de 3 mètres tellement j'étais remplie d'eau.
Non, mais
j'étais. Il y avait différents. J'ai une belle grossesse, hein, sinon, mais tu sais, il y a différents inconforts qu'on peut vivre dans la grossesse. Ça peut être ça, ça peut être le mal de dos, etc. Est-ce qu'il y a des choses déjà pour soulager ces maux et ces désagréments?
Alors oui, on peut déjà boire beaucoup d'eau parce que c'est vrai que quand on fait de la rétention d'eau, c'est important de bien boire. Il y a des ostéopathes, enfin, je ne sais pas comment au Canada ces personnes sont appelées, les ostéopathes, c'est juste...
Ostéopathe.
Voilà. Alors, si possible, prendre des personnes qui sont spécialisées évidemment en périnatalité, qui connaissent le corps de la femme enceinte. Ça peut aider, faire de la kiné. Il y a les massages aussi, tout ce qui est massage lymphatique. Boire des tisanes, marcher, continuer de se mouvoir, même si en effet
avec beaucoup de grâce. Se mouvoir avec beaucoup de grâce, ouais, c'est ça. Et les nausées.
Voilà.
Les nausées. Est-ce que tu as un conseil pour les nausées? Parce que là, dernièrement, moi, j'ai entendu plein de
jeunes femmes.
Ouais, nausées, ouais. Mais vraiment, c'est éprouvant, tu vois, même socialement et tout, c'est compliqué parce que ça les bloque dans leur vie et tout. C'est hyper intense. Donc, est-ce que là, il y a des choses peut-être même naturelles qui peuvent aider et soulager?
Alors déjà, manger avant de se lever, manger un petit quelque chose avant de poser le pied par terre, ça peut aider. Et ensuite, c'est écouter son corps. Manger en plus petite quantité, manger peut-être plusieurs fois sur la journée au lieu de faire un gros repas bien copieux à midi, diminuer les graisses, etc. Ça aide aussi. Alors c'est sûr que le bébé, dans le ventre, il commence à prendre de plus en plus de place. Tout remonte, les intestins sont écrasés, l'estomac remonte. Donc en fait, l'estomac a quand même moins de place et peut moins ingérer les aliments. Donc en réduisant la quantité de nourriture ingérée, ça peut aider, ouais.
Du coup, l'estomac a moins de place pour ingérer des aliments. Du coup, c'est un petit peu un mythe, on mange pour deux.
Ah oui, oui.
Ouais, on mange pas pour deux.
Non. Votre croyance.
J'avais entendu que la portion qu'un bébé a besoin, c'est une toute petite Et quelquefois, on dit qu'on mange pour deux. Vraiment, on mange pour deux. Alors que l'apport du bébé est vraiment très peu.
Mais je pense aussi, c'est comme si on se laisse le droit de manger pour deux. T'sais, moi, je me disais, ma première grossesse, j'avais pas jamais pris de poutine. Je faisais toujours la même chose. Donc, enceinte, je me suis dit, bien, voilà, c'est open bar. On mange qu'on veut, pour deux, pour trois. Puis après ça, tout va partir, tu vois. Et je me rappelle, après mon accouchement à l'hôpital, d'être allée sur la balance, enlève le poids du bébé. Là, puis c'est à peu près la seule chose qui était partie. Tu as des filles qui sortent de l'hôpital, ils mettent leurs jeans. Là, mais moi, pas question. Et je marchais, là, puis je me dis, j'aurais pas dû manger pour deux. Ça, c'est un bon conseil. On mange pas pour deux.
Non, mais pour de vrai, par rapport à ce que disait Aurélie, selon les, là où tu en es,
c'est très vrai.
Dans ta grossesse, c'est un peu quoi les apports supplémentaires qu'on est censé avoir, tu sais, dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième trimestre?
Alors ça, principalement, je pense qu'il faut voir avec une nutritionniste ou quelqu'un qui est vraiment spécialisé en nutrition, voire aussi avec justement la sage-femme, etc., par rapport à la prise de sang. Il y a des apports qu'on peut donner, que ce soit le magnésium ou autre. Mais là, voilà, ça, c'est plus un aspect médical, je dirais. Mais de toute façon, enfin voilà, prendre des aliments qui font du bien à notre corps, on va pas commencer, même si on a des envies de chocolat, de chips, de fromage gras, etc. Vaut mieux éviter tout ça parce que justement, ben ça peut donner des nausées, tout ce qui est du reflux, etc. C'est assez finalement agressif au niveau de l'estomac.
Et là, est-ce qu'on a une envie de cornichons dans la crème glacée? On évite aussi? Les femmes enceintes sont reconnues pour avoir des drôles de goûts. Ouais. Il y en a qui ont des goûts de cornichons. Oui. Je fais des blagues. Mais est-ce que c'est vrai ça ou c'est que les femmes enceintes ont plus des goûts un peu étranges?
Ben, c'est vrai, ça voilà. Maintenant, je pense que dans notre vie personnelle, on peut voir qu'on a parfois des envies un petit peu bizarres, mais ça peut être des choses qu'on a envie de manger, mais ça peut aussi être des textures qu'on a envie de toucher. Là, récemment, une maman me disait qu'elle avait tout le temps envie de toucher de la mousse, qu'elle était vraiment attirée par la mousse. Donc, elle regarde des vidéos de personnes qui nettoient leur tapis, etc., pour avoir cet aspect mousseux. Puis, bon, ben voilà, elle a envie souvent de se laver, de faire plein de mousse sur elle, avoir l'odeur du savon, etc., dans les narines.
Mais qu'est-ce que...
Donc, ça peut être vraiment des envies particulières.
Oui.
Et ça, je dois dire, je ne sais pas d'où ça vient.
Et qu'est-ce que vous dites justement à des femmes qui ont ce genre d'envie pendant la grossesse? En tant que doula, vous les accompagnez, mais qu'est-ce que...
Tu leur coules un bain moussa.
Qu'est-ce que vous dites? Combien il faut gérer ce genre de choses?
Je crois qu'on doit écouter notre corps. Maintenant, voilà, on peut manger les choses sans exagération. On peut se faire plaisir. Mais pas voilà, à se manger des paquets de biscuits, des paquets de chips, etc. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour, pour notre santé et pour le bébé. Je veux dire, c'est... Tout ce qu'on mange passe aussi dans le corps de notre enfant.
Et dis-moi, est-ce qu'il y a des exercices que j'aurais pu faire avant pour avoir moins de douleurs? Tu vois, comme moi, ça a été assez long, c'était douloureux, et le passage a été difficile, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut faire, la femme, pour une femme qui est enceinte, qui écoute l'émission, qu'elle peut se préparer...
Pendant la grossesse?
Oui, pendant, pour que ça soit plus facile. J'imagine qu'il y a des choses qu'on peut faire pour que ça soit plus facile.
Oui, bien sûr. Alors, il y a tous les étirements au niveau du bassin... voilà, faire le papillon, donc s'asseoir avec les pieds collés, donc faire bouger les genoux, étendre les jambes, etc. En fait, il faut se dire que le bébé va passer par notre bassin, donc au plus il est étiré, au mieux ce sera pour nous, pour lui. Ça peut aussi réduire toute la durée d'ouverture du col, etc., de dilatation. Donc voilà, ça c'est tout bénéf, tout ce qui est étirement et puis la marche concernant aussi tout ce qui est le souffle, hein, parce que ben c'est un marathon en fait d'accoucher, on n'y pense pas, mais quand on y est, on se rend compte que ça prend beaucoup d'énergie et c'est fatigant en fait, on doit tenir dans la durée.
Mais tu vois, t'en as fait deux marathons finalement.
Oui, c'est ça.
Parce que celui-là, il était quand même.
Oui, il était costaud.
Ouais, il était costaud. Heures, ouais. Et il y a des
heures,
femmes
c'est
aussi.
Long.
Ouais, 32
heures. 32 heures, oui, c'est.
Sophie, il y a des femmes qui ont peur du moment de l'accouchement à cause de la douleur. Qu'est-ce que tu peux dire peut-être pour assurer? Il y a même des femmes, tu vois, qui hésitent à tomber enceinte parce que la douleur de l'accouchement, même si y a la péridurale, etc. Mais c'est comme vraiment une peur. Qu'est-ce que tu peux dire, peut-être pour les rassurer, si ce n'est que ça fait mal pour de vrai, mais...
Alors, c'est sûr que ça fait mal pour du vrai. Ça, c'est certain. Et, mais le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on a mal, ça aide en fait à prendre du recul et à se dire aussi que c'est vraiment un travail de collaboration avec notre enfant. La douleur est là pour nous montrer comment le corps agit et où on en est dans ce processus de l'accouchement. Et c'est aussi cette douleur qui va nous rapprocher de la rencontre avec notre enfant. Et ce qui est merveilleux, c'est que voilà, quand j'ai fait cette formation de doula, je me suis rendu compte à quel point Dieu est le Dieu des détails. Parce que dans la manière dont il nous a créés, il a mis en nous toutes sortes d'hormones qui vont nous permettre justement au moment de l'accouchement, donc quand on accouche sans la péridurale, donc quand on a un accouchement physiologique, eh bien, les hormones sont sécrétées au fur et à mesure que le travail commence et que tout le processus de l'accouchement se met en place. Et ça, c'est merveilleux de se dire, en fait, ben voilà, quand je me mets dans telle ou telle position, quand je vais effleurer ma peau, quand mon mari va effleurer ma peau, quand je suis dans cette phase vraiment de douleur intense, eh bien, il va effleurer ma peau et donc il va y avoir l'hormone, l'endorphine, donc qui est cette morphine, en fait, naturelle qui va être produite pour vraiment atténuer, en fait, l'intensité des vagues, donc des contractions. Et tout ça avec cette hormone de l'amour qui est l'ocytocine. Et tout ce cocktail en fait d'hormones va nous permettre de vivre pleinement les intensités des vagues. Et c'est important de le savoir parce que quand on a connaissance de ça, eh bien, on sait pourquoi. On sait pourquoi on a mal.
Et tu dis l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Toi qui as fait beaucoup d'accouchements, dis-moi, est-ce que certains couples, quand la dame accouche, c'est pas l'amour tout le temps, c'est l'amour avant, c'est l'amour après, mais durant l'accouchement, dis-moi, moi, mon mari avait toujours faim, il voulait aller à la cafétéria, tu vois. Sur 32 heures, je le comprends, mais dis-nous quelques anecdotes pour encourager peut-être des femmes que, tu sais, des fois, moi, là, quand j'ai mon premier enfant, moi, je me suis dit, je vais arriver à l'hôpital, tout va bien aller, on va se tenir la main, je vais respirer comme il faut. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Que des fois, tu sais, quand tu es dedans, ça brise un peu ton rêve. Encourage-nous. On n'est pas les seuls, que des fois, ça peut être... Moi, j'ai voulu actionner le médecin parce qu'il n'arrivait pas à temps. Bon, ben... Donc, tu vois, non, mais je fais des blagues, mais c'est vrai. Mais dis-nous que certains couples, ça peut être plus difficile. Et ça aussi, il faut se préparer en couple que...
Bien sûr.
Ouais. Dis-moi, raconte, en fait, est-ce que tu as quelques anecdotes que les couples, c'était pas « je te tiens par la main et on respire ensemble
» Alors, c'est là que le rôle de la doula prend tout son sens.
Mais voilà,
en fait, parce qu'elle veut être le relais auprès du papa qui veut aller manger, qui veut aller prendre un petit peu l'air, etc. Et c'est vrai que la maman doit rester dans sa bulle pour justement pouvoir sécréter de manière efficace toutes ces hormones. Mm-hmm. Et donc, c'est sûr que si le papa est stressé, si la maman dit « non, mais laisse-moi, va faire un tour », voilà, et puis ben, le papa s'en va, la doula est là auprès de la maman pour qu'elle puisse rester dans cette bulle. Mais en effet, voilà, il y a eu des moments où c'était un peu tendu, et puis ben, papa est allé manger un sandwich pendant que maman se remettait vraiment dans sa bulle. Donc non, tu n'es pas la seule, je sais très bien ce que c'est. C'était pareil aussi pour mon accouchement, mes accouchements.
C'était pareil pour ton accouchement aussi,
pour le tien.
Alors oui, alors, il faut savoir... que moi, j'ai fait cette formation de doula après mes enfants. Donc, c'était un peu un deuil de me dire, ben mince, si j'avais su tout ça, j'aurais fait autrement, ça c'est sûr. Mais voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour aussi encourager les mamans, les couples dans tout ce processus d'accouchement qui est merveilleux et qui est vraiment initié par Dieu. Je veux dire, c'est Dieu qui est au contrôle de tout et qui nous donne vraiment ce privilège de pouvoir accoucher sereinement. Alors oui, il y a ce fameux verset, les femmes accouchent dans la douleur. Oui, mais la douleur est là pour nous enseigner pour nous informer d'où est notre bébé et quand est-ce qu'il arrive. Mmh.
Est-ce qu'il y a des façons d'anticiper justement des imprévus par rapport à la grossesse et à l'accouchement? Est-ce qu'il y a des techniques à mettre en place pour pouvoir les anticiper au maximum? Ou alors, ça sortira comme ça sortira. Voilà quoi.
Voilà quoi. De toute façon, le bébé va sortir, ça c'est sûr. Je crois que la première chose à mettre en place, c'est la prière. Parce que Dieu révèle dans la prière, Dieu, par le Saint-Esprit, peut nous montrer les choses, peut nous permettre d'anticiper aussi les choses. Maintenant, mais voilà, il y a tout le processus d'accouchement mais qui est important de connaître, qui nous permet justement d'anticiper l'intensité des contractions, qu'est-ce qui se passe quand bébé passe dans le bassin, qu'est-ce qui se passe quand il arrive au périnée, qu'est-ce qui se passe quand il passe le vagin, etc. Ça permet d'anticiper. Il y a tout ce travail de respiration aussi qu'on peut faire, on peut s'entraîner. Papa aussi peut s'entraîner à donner des paroles encourageantes à son épouse, parce que généralement le papa il est un peu déstabilisé, il sait pas trop quoi dire, il voit sa femme en souffrance, il sait pas quoi faire, pas comment l'aider, pas comment la soutenir. Mais tout ça c'est à discuter vraiment durant le temps de préparation, soit avec la doula, avec la sage-femme, de justement qu'est-ce qui peut être mis en place. En fait, c'est un petit peu de se dire, je vais faire un marathon et qu'est-ce que je vais faire pour m'y préparer? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais arriver au seuil là où j'en peux plus et je veux arrêter? Je pense que Stéphanie, tu as fait des marathons. Donc, qu'est-ce qu'à un moment donné, tu as dit, là, je continue, là, j'avance et qu'est-ce qui fait du bien? Et c'est à force de se connaître, de discuter, de faire sortir aussi toutes les craintes, parce que les craintes peuvent vraiment bloquer et stopper en fait tout le processus au niveau hormonal. Et donc, ça peut devenir très, très long parce qu'en fait, les peurs sont là, n'ont pas été mises en lumière, etc.
Au moment où la femme t'a dit si elle sort de sa bulle, là tu dis si elle a certaines craintes, le travail hormonal ne se fait plus naturellement à ce moment-là. Ça s'arrête.
En fait, ça s'arrête.
Oui. Ok. Donc, pour ça que ça peut durer. Ah ok.
Ouais. Ça. En fait, ça peut s'arrêter dès qu'on. Sortir de sa bulle, ça veut dire vraiment sortir du bien-être dans lequel on est. La maman doit se déconnecter de son néocortex. Donc le néocortex, c'est tout ce qui, dans le cerveau, tout ce qui touche à l'analyse, à l'observation, la réflexion, etc. Et donc quand elle est là, elle ne peut pas se concentrer sur ce qu'elle vit et au niveau hormonal, en fait, ça peut stopper parce qu'elle va réfléchir, elle va être dans les craintes, elle va analyser, elle va se dire, ça y est, mon bébé va pas être capable de passer, on va rentrer dans un espèce de stress intense, l'adrénaline va être sécrétée, l'adrénaline c'est une des hormones de stress qui peut vraiment comme inhiber la sécrétion d'ocytocine et donc l'ocytocine en lien avec les contractions.
Ok, donc là, ça peut ralentir le travail et du coup allonger. Ok, d'accord. Je ne savais pas à quel point c'était relié au néocortex.
C'est relié au passage.
Ça, c'est une parole que le papa peut dire. Déconnecte-toi de ton néocortex.
Oh, voilà.
Je pense qu'on va l'expulser de la salle à ce moment-là.
Et tu disais qu'il y avait des positions qui libéraient les hormones, des positions d'accouchement. Alors, on sait, pendant des années, on a dit aux femmes qu'il n'y avait qu'une seule, surtout en Occident, une seule façon d'accoucher, mais qui semblait un petit peu finalement contre nature, allongée et les jambes sur les... maintenant on n'en est plus toujours là. Je dis toujours parce qu'il y a encore, en tout cas, je connais plusieurs femmes, c'est la seule option qu'on leur a donnée. Mais c'est quoi les meilleures finalement positions pour pouvoir accoucher et libérer un maximum d'hormones?
Mais c'est la femme qui est la meilleure experte de son accouchement. Donc, quand on part dans un accouchement physiologique, donc on va dire naturel, sans péridurale, ni médicalisé, la femme elle-même va sentir qu'est-ce qui est le meilleur pour elle et pour que le passage du bébé se fasse au mieux. Alors, c'est sûr que tout ce qui est position à quatre pattes, même accroupie, semi-debout, assis sur une chaise, etc., toutes ces positions-là facilitent en fait la descente du bébé dans le bassin et puis ensuite... le col de l'utérus. Donc ça, c'est vraiment des positions qui vont faciliter, on va dire. Maintenant, on ne va pas supprimer toutes les douleurs, hein, ça je ne dis pas, mais disons que ça va vraiment aider au niveau du passage. Et c'est vrai que la position couchée sur le dos n'est vraiment pas l'idéal.
Et c'est pour ça qu'instinctivement, une femme qui est couchée sur le dos va avoir le désir de changer de position. Et ça, c'est bon qu'elle puisse suivre son instinct à ce moment-là et se faire confiance.
Tout à fait. Tout à fait. Et d'où tout ce temps de préparation à l'accouchement, de pouvoir discuter, mais aussi d'anticiper, de se dire, OK, en fait, est-ce que quand je suis enceinte de 9 mois et que je suis couchée sur le dos, est-ce que je suis confortable? Je pense qu'on pourra toutes dire non et qu'on aura tendance à se mettre sur le côté ou à bouger en tout cas parce que, bah oui, cette position sur le dos n'est pas l'idéal. Et la femme, elle a mieux placé pour savoir ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin de se tenir, de s'étirer? Est-ce qu'elle a besoin de s'appuyer sur son mari? Est-ce qu'elle a besoin qu'on la laisse? Et donc, l'accouchement physiologique permet justement de pouvoir se mouvoir librement.
Et j'ai entendu aussi parler des accouchements dans l'eau. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu? Comment ça se passe? Est-ce que c'est recommandé ou pas?
Alors, j'en ai jamais vécu. J'en ai déjà vu par vidéo, etc. Et durant ma formation, on en a parlé. En fait, l'eau chaude va justement permettre de se détendre et d'être dans un certain confort et donc justement de sécréter cette fameuse ocytocine. Et l'eau chaude, ben voilà, on est fatigué de notre journée de travail, etc. On a envie d'un bon bain chaud pour se faire du bien. Et bien là, pour l'accouchement, ça peut en effet être très bien vécu pour la femme. Oui.
Et au niveau de la poussée, parce que tu sais, on disait pour les positions, la femme, c'est elle-même le mieux, ce qui est le meilleur pour elle. Et tu vois, lors de la poussée, quelquefois, la sage-femme ou le gynéco va dire non, attendez, c'est pas encore le moment de pousser. Mais la femme a un fort désir de pousser. Comment on explique en fait ce décalage?
Ouais, c'est souvent dans les films qu'on voit ça ou dans les accouchements.
Non.
On m'a dit qu'il fallait pas pousser.
C'est vrai qu'elle fallait dire non, ouais, c'est pas encore. Pas pousser,
ouais. Alors c'est vrai que dans les accouchements médicalisés, parce qu'il y a la péridurale, alors la femme ne sent pas en fait au niveau des contractions, au niveau des vagues, ce qui est en train de se passer dans son corps, et donc c'est le médecin qui va donner les informations parce que il voit le monitoring, etc. Tandis que quand on est dans un accouchement physiologique, la femme va savoir quand elle doit pousser. Désolée de faire la comparaison, mais quand on va aux toilettes, on vous dit pas retiens-toi, ne va pas à celle, parce qu'en fait c'est juste pas possible. C'est quelque chose qui est naturel. Faut se dire que les contractions qu'on vit, on a aucun contrôle par rapport à ça. Ça fait partie vraiment d'un réflexe en fait, et donc ça se met en route tout seul et naturellement. Et bébé descend, pousse sur ce col qui va s'ouvrir, et donc en fait la femme va bien savoir quand elle doit pousser.
Donc encore une fois, la femme peut se faire confiance à ce moment-là.
Tout à fait. Okay. Oui, c'est très important en tant que femme de reprendre ce que Dieu nous a donné, cette compétence vraiment de pouvoir accoucher voilà, avec oui une équipe qui nous entoure, mais Dieu a tout mis en nous pour qu'on vive un accouchement serein et oui dans la paix.
Et comment on fait j'ai déjà dans ma famille, il y a eu des cas, par exemple, où à la dernière minute, la décision a changé. Les femmes allaient accoucher normalement, mais subitement, comme ça, c'est comme non, il faut faire une césarienne. Comment est-ce qu'on peut se préparer à des changements aussi bruts, je ne sais pas si c'est le bon mot, aussi soudain. Est-ce comment on peut se préparer à ce type de changement-là qu'on va accoucher? Parce que parfois, ça arrive qu'on a un scénario, on se dit « Ok, je vais accoucher normalement et tout ». Ça peut même arriver qu'on se dise qu'on va prendre la péridurale, mais à la fin, on ne peut plus, on n'est plus à une étape où on peut l'administrer. Comment on fait quand il y a des changements aussi soudains?
Oui. Dans toute la période de préparation à l'accouchement, ce sont des choses qui sont justement discutées et échangées. Ça permet d'anticiper justement quand ça arrive. Et là, je crois que c'est important de faire confiance à l'équipe médicale qu'on a choisie finalement. Si on va dans tel ou tel hôpital, c'est parce qu'on a confiance dans l'équipe médicale. Et c'est vrai que ça peut être un deuil. Ça peut être ce temps de se dire, en fait, j'avais prévu ça. Et puis, finalement, il n'y a rien de ce que j'ai prévu qui se déroule comme je l'avais pensé. Ça peut être difficile. Et en même temps, c'est se remettre à Dieu, de dire, voilà, Dieu est au contrôle de toutes choses. Ça me fait penser à mon propre accouchement pour ma troisième. Voilà, je m'étais dit, je vais accoucher de manière physiologique, etc. Et en fait, ma fille ne s'est pas retournée. Et pourtant, avec mon mari, on a prié. Moi, je voyais les petits vêtements et j'avais cette pensée qui me venait de me dire elle ne mettra pas ses vêtements de naissance, elle ne va pas les mettre. Et je priais vraiment par rapport à ces pensées qui venaient. Je priais contre l'ennemi, contre mes pensées, etc. Et en fait, cette pensée ne me quittait pas. Et à un moment donné, j'ai changé ma manière de prier. Je dis « Ok, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. » Si ma fille doit se retourner, elle se retourne. C'est toi qui gères ça. Mais je veux te faire confiance. Finalement, elle ne s'est pas retournée. Donc, moi qui voulais accoucher par voie basse, de manière physiologique, etc., c'était foutu parce que c'était une césarienne programmée. J'ai dû accepter et faire ce deuil, en fait, de pas pouvoir accoucher comme je l'avais pensé. Et au moment de l'accouchement, donc quand ma fille est sortie, la gynécologue nous a dit que heureusement qu'elle ne s'était pas retournée parce que le cordon ombilical était entouré deux fois autour de son cou. Et donc, en se retournant, elle aurait pu être étouffée et étranglée par le cordon. Et donc là, on se dit, mais en fait, oui, Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors la césarienne, ben, c'est sûr que voilà, c'est pas l'accouchement rêvé. Mais en tout cas, voilà, notre fille est en vie. Bon, après, il y a eu d'autres péripéties parce qu'elle a dû aller en néonate, etc. Mais c'est vrai que là, on s'est dit, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et donc, en tant que chrétienne, c'est se remettre à Dieu, de se dire, Dieu connaît toutes choses, il voit notre bébé, alors que nous, on ne sait pas ce qui se passe, mais lui, il sait.
Mais dans les deuils aussi, il y a l'allaitement. J'imagine que vous accompagnez les femmes par la suite dans l'allaitement parce que beaucoup de femmes veulent allaiter leurs enfants et des fois, ça ne fonctionne pas, tu vois. Moi, j'ai essayé avec mes deux enfants et c'était très, très difficile. Et à un moment donné, dans la nuit, quand j'étais encore à l'hôpital, et j'ai dit à l'infirmière, je pense que je vais arrêter l'allaitement. Et écoute, elle m'a regardée, c'est comme si je tuais mon bébé. Là. Déjà, je me sentais hyper coupable. Puis là, c'est comme, elle m'avait dit... Vous savez ce que vous faites. Et là, je dis, oui, je sais, mais c'était difficile, le bébé. En tout cas, je vous épargne des détails. Mais ça a été pour moi quelque chose comme si tu te sentais pas à la hauteur, une mauvaise mère. Et des fois, on fait tout ce qu'on peut, que ce soit pour accoucher naturel ou l'allaitement. Et ça, c'est important. J'imagine peut-être qu'une femme qui nous écoute, puis moi, je veux allaiter, ça fonctionne pas, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu dis à une femme qui doit peut-être faire le deuil de ça ou bien est allée jusqu'au bout, je ne sais.
Oui. C'est vrai que c'est un deuil. Mais quand c'est pris bien en amont, il y a moyen de mettre des petites choses en place pour que l'allaitement fonctionne. Et c'est aussi important, ben, non seulement de préparer son accouchement, mais de préparer l'allaitement, de préparer le retour à la maison. Ce sont des choses que souvent on oublie. Parce qu'on se dit, ben, en fait, voilà, bébé est là et tout va se passer comme ça. l'allaitement, eh bien, la montée de lait vient entre 2 et 5 jours après l'accouchement. Et si ça ne fonctionne pas, alors qu'on n'a pas eu de prothèse mammaire, d'opération, etc., que bébé est bien, ça doit fonctionner. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a une mauvaise position, il y a peut-être un frein de langue qui empêche bébé de bien attraper l'auréole, le téton, etc., pour pouvoir, le mamelon, pour pouvoir tirer le lait, prendre le lait. Mais c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement aussi à faire au niveau de l'allaitement.
Et si on n'a pas eu aussi son bébé dans les premières heures et du coup la lactation n'a pas été stimulée, ça aussi, ça peut, est-ce que c'est vrai que ça peut empêcher ou retarder la montée de lait?
Oui. Oui, parce que de nouveau, cette ocytocine a tout son rôle à jouer, donc elle est très importante, cette hormone-là. Au moment où bébé sort, c'est pas comme dans les films, de regarder votre bébé comme il est beau et puis hop, il est parti. C'est on le met sur soi, on fait du peau à peau et donc tout ça, ça va, on va avoir le plus haut pic de cytocine inégalable dans une vie. Et donc tout ça, ça va justement provoquer cette montée de lait. Et en effet, si bébé est pris parce qu'il y a, il y a un souci de santé ou que sais-je, c'est vrai que ça peut retarder la montée de lait, mais ça ne veut pas dire que l'allaitement est foutu.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour réactiver la lactation dans ces moments-là?
Oui, eh bien, on peut déjà porter un vêtement de bébé, l'avoir près de soi, se dire que notre enfant est né. Et puis, on peut aussi tirer son lait pour justement activer la lactation. Alors, ce n'est pas l'idéal, ça c'est sûr. Quand ma fille était en néonat, 24 heures après l'accouchement, donc elle a dû être transférée d'urgence dans un autre hôpital, etc., en ambulance. Donc, je venais d'accoucher par césarienne. Donc, déjà, la césarienne, ça peut aussi retarder cette montée de lait. Et puis, je me suis retrouvée dans ma chambre sans mon bébé et on est venu m'apporter le tire-lait. J'avais l'impression, désolée, mais d'être un petit peu une vache à lait et de devoir en fait activer cette lactation sans que mon bébé soit là. Ça a été quand même compliqué. Mais en même temps, les infirmières en néonat m'avaient conseillé de prendre un doudou, de porter le doudou sur moi et puis pendant quelques heures, et puis aller amener le doudou dans la couveuse et puis de reprendre celui qui était là. Et donc, en fait, autant pour elle, elle avait mon odeur auprès d'elle, mais moi, j'avais son odeur près de moi quand, justement, je tirais mon lait. Et donc, ça permet, en fait, d'être, malgré tout, apaisée.
Et tu as pu, du coup, allaiter après, par la suite?
Oui, sans problème, oui.
Ah, super.
Vraiment, tout s'est très bien passé, oui.
J'aurais une autre question de après accouchement, parce que dans mes fonctions pastorales, ça m'est arrivé de rencontrer des femmes qui, dans leur couple, ça a été difficile après l'accouchement, parce que déjà l'homme, il a vu sa partenaire dans un état un peu hystérique ou difficile ou dans toutes sortes de... Et pour certains couples, c'est difficile après, ou même pour la femme, c'est difficile parce qu'elle a souffert. Est-ce que, je sais pas, t'as des conseils peut-être à des couples qui viennent d'accoucher et qui disent comment on reprend la vie sexuelle, tu sais, trop rapide, trop tard, ou j'ai plus envie, je ne sais, mais ça crée beaucoup de problèmes, ça, dans les jeunes couples ou dans les couples qui viennent d'avoir un enfant.
Oui. L'important, c'est d'être bien entouré, d'avoir conscience qu'en effet, l'accouchement, c'est quelque chose qui est fort émotionnellement, mais aussi physiquement. Je veux dire, le corps de la femme est quand même bien, bien étiré, donc elle a besoin de repos. Et c'est de responsabiliser aussi l'homme, de dire qu'il a
repos,
son rôle.
Excuse-moi, je te coupe, mais de repos, c'est combien de temps à peu près? En moyenne, j'imagine, c'est pas pareil pour tout le monde.
Pour un accouchement qui s'est passé, on va dire normalement.
Avant de reprendre les relations.
On parle de plus en plus du quatrième trimestre. Cette dernière période, en fait, ce mois d'or qui vient clôturer cette année en fait de grossesse et de chamboulement, c'est de se dire qu'en fait encore pendant 3 mois, eh bien la maman est au repos, a besoin vraiment d'être entourée d'un papa, d'un mari qui est présent pour elle, mais pour aussi le bébé, et d'avoir peut-être une famille, l'église, qui peut soutenir, etc., justement, au fait que la maman puisse bien se remettre. Mais c'est vrai qu'un accouchement peut être explosif pour un couple. Mm-hmm. Et donc, c'est important. Tout dépend aussi de comment le couple se sent avant l'accouchement, parce que généralement, ça explose, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des choses qui ont peut-être été vécues plus difficilement avant et que tout ressort, mais voilà, par la fatigue, par les douleurs, par les nuits sont plus courtes, il y a un nouveau-né qui est là, l'attention est dirigée vers lui, etc. Donc, ce que je dirais, c'est vraiment la communication. Il n'y a rien à faire, ça, je crois que c'est la base, de trouver aussi le rôle de chacun dans cette nouvelle configuration familiale.
Mais c'est parce qu'on accompagne beaucoup les femmes et c'est normal. Ouais. Mais les hommes aussi, je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement dans cette démarche.
Parce que surtout que tu ne le vis pas, en tant qu'homme, tu ne le vis pas dans ton corps.
Oui.
Donc tu te rends pas compte que c'est bon, il est accouché,
c'est fini. On passe à autre chose.
Mais c'est vrai que, comme tu dis, ce quatrième trimestre cette année, je pense, ce trimestre dont, en général, la femme a besoin pour se remettre émotionnellement, mais aussi physiquement, comme retrouver ton corps, etc. Parce que je pense qu'on sous-estime quand on n'a pas accouché, c'est vraiment ce qui s'est passé dans le corps, c'est une expérience assez unique et intense. Et c'est bien, ce quatrième trimestre, il est bien.
Mais aussi de retrouver son corps, parce qu'il a changé, là, t'as l'allaitement, t'as tout ce qui est changé, donc c'est peut-être pas le...
En tout cas, merci beaucoup Sophie pour tous tes éclaircissements et pour toutes tes réponses. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On en avait encore d'autres sous le coude éventuellement, mais merci beaucoup. Puis je pense que ça va amener aussi une certaine sérénité, surtout peut-être à des jeunes mamans qui sont enceintes en ce moment, qui pouvaient se poser certaines questions. Donc un grand merci. Puis j'aimerais terminer en le disant, c'est que, comme Sophie, tu nous l'as dit, Dieu a créé notre corps de femme pour pouvoir porter la vie et aussi pour pouvoir accoucher. Et c'est vrai qu'il y a un moment dans l'accouchement où on a l'impression qu'on n'a pas été créé pour ça. Mais rappelez-vous, nous avons été créés pour ça. Votre corps est capable de porter la vie, mais aussi de sortir la vie. Il a été fait vraiment pour ça, de façon complète et complexe. Donc faites confiance à votre corps, mais faites confiance à votre créateur parce qu'il a fait toutes choses à merveille. Comme Sophie nous l'a expliqué, avec tout ce système, tout ce travail hormonal, plus on sera dans la confiance et plus aussi les hormones qui sont là à notre disposition vont pouvoir aussi faire leur travail. Donc un grand merci à toi Sophie, et puis écoutez, vous toutes qui nous suivez, on va se retrouver vendredi. Bye bye,
bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.